bienvenue à tous sur Radio Futur, il est 13h30. Vous êtes ici pour votre émission hebdomadaire Palabre entre esprits, qui parle de la vie quotidienne et son futur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Ce terme connu de tous, mais pas forcément défini, a été créé par John McCarthy. Il consiste en l'élaboration de programmes informatiques capables de prendre en charge des tâches habituellement effectuées par des humains. L'objectif est de parvenir à transmettre à une machine des fonctions propres aux vivants, telles que la rationalité, le raisonnement, la mémoire et la perception. Vous pouvez réagir comme tous les jours au standard 053 44 20 et n'oubliez pas non plus le hashtag sur Twitter, PalabreEE. Aujourd'hui, pour débattre avec nous, 4 invités, merci de les accueillir bien fort. Bonjour Christophe Talac.
Bonjour, bonjour les auditeurs.
Vous êtes un industriel qui est pour l'utilisation des intelligences artificielles. Vous êtes PDG d'une start-up qui utilise les intelligences artificielles pour établir des diagnostics à partir des données collectées, telles que le son et les images, le tout dans différents domaines d'application tels que le bâtiment et le médical. Avec nous aussi cet après-midi, Françoise Richard, députée France Insoumise, Pays de la Loire. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous soutenez que les intelligences artificielles sont mauvaises et restreignent les libertés des citoyens. Par ailleurs, vous êtes aussi contre la surveillance des citoyens. Bonjour Daniel Frediger.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes retraité, passionné de nouvelles technologies et vous avez travaillé pendant 10 ans chez Google au développement de la Google Home, ces fameuses enceintes connectées qui gèrent la maison grâce au contrôle vocal. Et enfin, avec nous, Frédéric Alliot.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Bonjour. Vous travaillez au CNRS sur les nouvelles technologies et leurs effets. Vous êtes aussi auteur de 2 livres, Dégénération d'une génération chez Gallimard, paru en 2018, et La face cachée du numérique chez Albin Michel en 2019.
C'est bien ça.
Vous êtes contre les intelligences artificielles, selon vous, car elles empêchent la réflexion et le bon sens. Avant de commencer, je voudrais introduire le sujet d'aujourd'hui avec un extrait de film.
Tu es prêt, Jarvis ?
Pour vous, monsieur, toujours.
J'aimerais ouvrir un nouveau dossier. Nomme-le Mark II.
Dois-je le sauvegarder dans la base de données de Stark Industries ?
J'avoue que je ne sais plus à qui me fier. Jusqu'à nouvel ordre, sauvegardons tout sur mon serveur privé.
Travaillons-nous sur un projet secret, monsieur ?
Je veux pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Entre les miennes, ça aidera peut-être le monde.
Vous avez sans doute reconnu Iron Man et son intelligence personnelle, Jarvis. Qui est capable de réflexion et d'interaction avec son créateur ? Je me tourne vers vous, Daniel Frediger. Vous qui avez côtoyé tous les jours l'intelligence artificielle pendant les dernières années de votre carrière, pensez-vous que les intelligences artificielles sont une solution d'avenir ?
Oui, pour moi, je pense que ce sont des solutions d'avenir, car étant à la retraite, tous les retraités comme moi peuvent avoir des facilités grâce aux intelligences artificielles, grâce aux objets connectés tels que des robots pouvant réaliser des aides dans les tâches ménagères, par exemple, grâce à l'assistance vocale aussi. L'intelligence artificielle a un aspect vraiment positif sur nous et sur le monde en lui-même.
Merci bien. Qu'en pensez-vous, vous, à propos des intelligences artificielles ?
Mon avis est celui du peuple que je représente. Est le suivant, c'est-à-dire que pour les personnes atteintes de handicap ou en situation compliquée, c'est une excellente chose, une aide dans leur quotidien. Cependant, pour les personnes qui n'ont pas besoin, je pense que c'est un risque de perte d'indépendance pour l'humanité.
Si je peux intervenir, je pense que l'utilisation d'intelligence artificielle est importante même pour les personnes qui n'en ont pas aujourd'hui besoin, mais il faut plutôt prévenir que guérir, notamment dans les industries où les ouvriers font des tâches très difficiles, qui peuvent notamment amener des TMS, donc des troubles musculo-squelettiques. L'intelligence artificielle est utile pour les ouvriers.
Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Talak.
Oui, oui.
Il est vrai que les intelligences artificielles sont créées pour soulager le travail quotidien des citoyens, enfin de tous les gens, et aussi pour des tâches dans les métiers. Mais vous ne vous rendez pas compte du danger que peuvent représenter ces IA, enfin ces intelligences artificielles, car chaque progrès a une conséquence. Et c'est un domaine où nous sommes plus ou moins, nous ne savons pas tout.
Donc c'est quoi la conséquence qu'il pourrait y avoir ?
Alors, dans le niveau industriel, comme vous, par exemple, des robots sont souvent piratés, et du coup ça peut amener la perte de votre entreprise, par exemple, car les machines sont inutilisables.
Bah écoutez, je vais vous dire un truc. On engage une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. Donc je vais vous assurer que toutes mes machines, toutes mes intelligences artificielles sont entièrement sécurisées. Et donc voilà.
Au niveau économique pour vous ?
Au niveau économique, ça se porte bien. Même si je sais que le niveau économique est un sujet tabou en France. Écoutez, l'intelligence artificielle nous amène de très bonnes choses. Et ça profite autant à nous qu'à nos clients.
Merci bien à vous deux. À propos de la sécurité, j'aurais une deuxième question à vous poser, qui est, est-il possible de laisser certaines décisions aux intelligences artificielles, et qu'en est-il de la responsabilité qui en découle, homme ou machine ? Allez-y, monsieur Talak, par exemple.
Alors nous, on utilise quand même beaucoup d'intelligence artificielle dans notre entreprise. On n'a pour le moment jamais eu d'accident, donc je ne peux pas trop vous dire en cas réel. Cependant, je pense que c'est une législation à prendre au sérieux et à traiter très vite.
Okay, Madame Richard, vous, qu'en pensez-vous ?
Eh bien, au sein de mon parti, c'est justement une loi que je souhaiterais faire appliquer. C'est-à-dire que je souhaiterais que l'intelligence artificielle ne puisse pas prendre des décisions à la place de l'homme. Pour une raison assez simple, c'est-à-dire que je pourrais prendre un exemple. Dans un accident de voiture, par exemple, une machine prendra en compte l'espérance de vie de la potentielle victime. C'est-à-dire que si c'est un enfant, il fera tout pour la sauver, alors qu'une vieille personne, le choix entre les deux, pour l'intelligence artificielle, ce serait plus stratégique, selon celle-ci, de choisir l'enfant. Or, pour une personne humaine, ce serait inenvisageable de choisir. Donc la responsabilité ne devrait absolument pas être prise en compte par cette intelligence artificielle.
Allez-y, Madame Friedger.
Je voulais parler d'un autre exemple que la voiture, par exemple, avec l'enfant et la personne âgée. Par exemple, justement, sachant que je suis retraitée et que je vais sur mes vieux jours, je prends l'exemple d'une personne âgée, par exemple, qui est malade et qui est chez elle autonome, mais qui possède un robot humanoïde. Si par exemple elle a un problème, qu'elle fait un malaise ou quoi, et que le robot constate une action inhabituelle, est-ce que le robot va contacter par exemple un service médical ou urgence? Et ça, c'est plutôt le rôle d'un homme d'appeler les secours. Et moi, je trouve que c'est quand même bien que les robots et l'intelligence artificielle agissent à la place de l'homme, par exemple pour des tâches comme appeler les secours.
Pour animer une personne, par exemple.
Oui, voilà.
Monsieur Alliot, vous avez quelque chose à rajouter ?
Alors, oui, cela dépend des robots, des programmes. Si on prend l'exemple de la voiture ou d'un robot humanoïde, il est vrai que les intelligences artificielles sont programmées. Les programmes peuvent être défaillants. Pour autant, l'homme fait confiance aux intelligences artificielles Et je pense que s'il y a un problème, ça serait la faute de l'homme, car il pourrait ne pas utiliser les intelligences artificielles s'il n'en éprouve pas le besoin. Cependant, c'est un sujet nouveau. Donc l'homme ne sait pas ce que cela peut apporter, sans problème ou en bon. Et du coup, ce serait la faute de l'homme de ne pas savoir ce qu'il utilise.
Oui. Comme par exemple une mauvaise manipulation lors de l'écriture du code de la machine. Okay. Suite à l'émission de la semaine dernière, nous avions annoncé le thème et nous avons une question qui nous est arrivée par mail ce matin. Cette question nous vient d'une radiologiste, Nathalie. Elle nous demande, elle nous dit, on voit un peu partout que les intelligences artificielles commencent à arriver. En tant que radiologiste renseignée, j'ai pu voir parfois que celles-ci étaient plus performantes que nous dans certains cas, et dans d'autres, elles ne valaient rien. J'aimerais savoir si nous serons un jour relégués au second rang. Merci, Nathalie.
Alors moi, si je peux me permettre, pour commencer à débattre sur cette question, l'intelligence artificielle qu'on utilise, c'est avant tout pour aider l'homme et pas le remplacer. Donc par exemple, les tâches difficiles, par exemple, je vais prendre un exemple simple, dans une usine pour trier les déchets, une machine qui trie les déchets et un homme, c'est pas la même qualité de triage. Donc après, on peut quand même assembler les deux, c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'homme puis la machine. Je pense que les deux font un bon ensemble et peuvent travailler ensemble.
Madame Richard.
Donc, si je peux me permettre, comment feriez-vous pour associer ces deux êtres? C'est-à-dire que si ces robots ne suppriment pas ces emplois, qu'est-ce qu'ils font? Comment faites-vous pour valoriser les personnes qui ne peuvent pas s'adapter au changement?
Alors déjà, oui, ça supprime quelques emplois. Il faut savoir que ça en rajoute aussi. Certes, il faut être plus qualifié. Et ça a toujours été le cas. Dans le monde du travail, on cherche des qualifications. Et donc ça évolue, bien évidemment. Lors de la révolution industrielle, les métiers ont évolué. Je pense que c'est pareil. Donc pour revenir à votre question, je vois pas comment ils ne pourraient pas travailler ensemble.
Et en ce qui concerne les personnes qui ne peuvent pas justement s'adapter, comme par exemple les personnes qui sont à quelques années de partir en retraite, elles ne peuvent pas travailler, peuvent pas s'adapter. Il y a un vrai problème de transition générationnelle.
Oui, bah après il y a des formations qui sont créées pour ça. Il y a des personnes qui sont qualifiées pour apprendre aux personnes âgées, comme vous dites, au moins les bases des nouvelles technologies, notamment des intelligences artificielles. Et après, c'est aux employés
de poursuivre en formation, par exemple.
Voilà, merci beaucoup.
Madame Frudiger, vous avez quelque chose à ajouter ?
Moi, je suis de l'avis de Monsieur Talak. Je trouve qu'ils peuvent très bien travailler ensemble. Cela apporterait, par exemple, là, en tant que radiologiste, plus de rapidité dans la tâche du travail et plus de précision. Mais il faut toujours que l'intelligence artificielle soit accompagnée de l'homme. Ils peuvent très bien travailler ensemble.
Mais pour contrôler derrière au cas où, voilà. Si jamais les diagnostics sont faux. Vous, monsieur Alliot, une idée ?
Moi, pour revenir au sujet apporté de Nathalie, il est vrai que dans la médecine et la radiologie, on utilise beaucoup les intelligences artificielles et ça apporte beaucoup. Mais si elle-même nous dit qu'elle ne voit pas les performances dans ce domaine-là, elles ne servent à rien. Et donc, s'il n'y a pas de besoin, autant ne pas en avoir pour ne pas avoir de problème en plus.
Okay. C'est à chaque entreprise de réguler sa proportion employée intelligence artificielle. Évidemment, si les intelligences artificielles ne servent à rien dans un domaine, je ne vois pas l'intérêt de les mettre, mais sachez que dans notre domaine, elles nous sont complètement utiles, et sans elles, on ne peut plus suivre la course économique mondiale, et donc notre entreprise coulerait et c'est impossible économiquement pour nous de ne plus utiliser l'intelligence artificielle.
Merci à vous. On va poursuivre sur une troisième question. La maison connectée avec intelligence artificielle qui gère tout, est-ce une évolution ou bien une régression pour l'homme et sa vie quotidienne? Vous, Madame Friediger, qui avez travaillé sur les enceintes connectées, qu'en pensez-vous?
Alors moi, je pense que c'est une évolution pour l'homme. Cela permet à l'homme d'être à la fois, je vais dire, assisté, mais c'est surtout d'être accompagné au quotidien par exemple les enceintes connectées. Il suffit de demander à l'enceinte quand est-ce que j'ai tel rendez-vous, par exemple. Si j'ai un oubli, il me le rappelle et je trouve ça bien pour l'homme. Ça évite des oublis, ça divertit aussi pour lancer de la musique, des trucs comme ça. Et je trouve ça vraiment bien et c'est une grande évolution, je trouve.
Madame Richard, vous qui êtes contre la surveillance des citoyens au niveau de ces enceintes connectées, pensez-vous pas qu'elle pourrait apporter une liste complète de ce que les personnes font dans les journées?
Si, tout à fait. Je pense que c'est un danger et qu'il ne faut absolument pas faire ça. De toute façon, mes partisans et moi-même pensons que c'est néfaste contre l'évolution de l'humanité parce que nous perdons toute indépendance via notre mode de fonctionnement. Par exemple, quelque chose de tout simple, baisser les rideaux. Avant, il y avait une manivelle, maintenant on appuie juste sur un bouton. Ou comme le suggérait Madame Friediger, une intelligence artificielle qui pourrait nous rappeler nos rendez-vous. Nous perdons la mémoire, ça ne fait plus travailler notre mémoire.
Mais pour les personnes âgées comme moi, on a tous des petits troubles de la mémoire arrivés à un certain âge et je trouve ça bien justement qu'il y ait une enceinte connectée à côté l'intelligence artificielle qui nous rappelle ces rendez-vous par exemple.
Et même si je peux me permettre, avant on avait des agendas, des calendriers, c'est exactement la même chose mais évolué. C'est pas une question de mémoire ou d'oubli, enfin d'oubli en l'occurrence si, mais une question de mémoire, je ne sais pas. Calendrier, on les regardait, maintenant c'est eux qui nous disent, je pense que c'est une évolution utile.
Alors pour défendre Madame Françoise Richard, il y a quelque chose que l'on ne voit pas, c'est que nous sommes entourés d'ondes, et le fait que nous vivons dans une maison fermée avec des ondes tout autour de nous, des ondes de Wi-Fi ou Bluetooth, qui sont nocives pour l'homme, cela peut apporter des cancers. Donc, il faut savoir qu'une personne sur deux est touchée d'un cancer dans le monde. Les ondes sont nettement néfastes pour l'homme. Et le fait d'utiliser ces appareils connectés n'est pas un progrès conséquent.
Après, j'imagine qu'il y a des installations, notamment des isolations pour les ondes, il faut peut-être acheter de la bonne qualité. J'imagine que ça peut se gérer.
Si vous commandez un appareil, par exemple si vous voulez connecter un téléphone à votre enceinte, il y aura des ondes qui seront émises dans toute la salle à une certaine fréquence et qui seront nocives pour toutes les personnes dans cette pièce. Ça dépend si nous sommes près de l'émission de l'onde ou non, mais dans une maison, nous sommes touchés tout le temps à n'importe quelle onde, que ce soit une onde Wi-Fi ou Bluetooth, si vous connectez une enceinte, et ça va être très nocif.
Et je rejoins Monsieur Alliot sur ce fait, en proposant une solution, c'est-à-dire que les personnes en ayant besoin pourraient tout à fait en être équipées, ce serait une très bonne solution pour eux, comme par exemple pour vous, madame. Mais pour les personnes qui n'en ont pas besoin, autant préserver leur santé et leur avenir, et pouvoir éduquer leurs enfants correctement en n'en ayant pas, tout simplement.
Merci bien. Y a un tweet qui vient d'arriver au Standard. Ce tweet nous vient de Jules. En tant que jeune qui pense à son avenir, qu'en est-il des quantités d'énergie nécessaires pour le traitement et le stockage des données et de la pollution invisible? J'aimerais avoir votre avis sur ça, monsieur Talak.
Oui, c'est une question importante à se poser. Et malheureusement, mon domaine ne concerne pas vraiment les données. Malgré ça, je peux quand même vous en parler. On a entendu dire que le stockage de données provoquait une pollution ahurissante. Cependant, tout ce qui utilise donc ce stockage de données est indispensable à la vie de tous les jours pour tout le monde. On ne peut plus s'en passer. Et c'est donc l'évolution humaine. Donc je pense que c'est indispensable malgré la pollution. C'est pas la plus grande cause de pollution du monde, je pense qu'il y en a d'autres, des beaucoup plus importantes à régler avant.
Alors, je suis désolé de vous faire face, mais le fait de stocker les données n'est pas indispensable selon moi et l'ensemble des scientifiques. Pour rejoindre aussi l'exemple de Madame Frödiger sur le robot humanoïde qui aide les personnes âgées à la maison, il est vrai que cela est un gain de temps et est vraiment très utile. Cependant, s'il y a des problèmes au niveau du robot, que ce soit une pièce usée ou cassée, ou une batterie morte, plus utilisable, cela pollue encore plus. Donc l'ensemble des intelligences artificielles nuit clairement à l'environnement. Donc c'est pour rejoindre le tweet de Jules 1.
Madame Richard.
Donc justement, je voulais rejoindre mon collègue sur ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que l'énergie qui va être consommée par ces banques de données va être considérable. Ce sera un vrai problème de pollution atmosphérique. Non seulement ça, mais en plus, les composants de ces futurs robots ou ceux qui sont déjà actuels vont devenir de plus en plus rares. Par exemple, le cuivre, on n'en trouve presque plus. Ça va encore augmenter les inégalités entre ceux qui peuvent s'offrir ce genre de gadget et d'autres non. À plus grande échelle, ça pourrait provoquer des conflits internationaux importants.
Oui, alors peut-être qu'il y a des soucis au niveau de la pollution invisible, mais cependant, par exemple, lorsqu'on programme des appareils connectés comme son chauffage à distance, cela entraîne moins de pollution. Donc du coup, peut-être que il y a peut-être la pollution invisible, en effet, il y a peut-être un peu de pollution invisible, mais... programmer tous les appareils connectés, ça nous permet un gain de d'énergie, oui, qui pollue moins du coup, vu que c'est programmé et on gère ça pour qu'il y ait moins de pollution. Et ça diminue aussi les factures et on gagne aussi.
Je rejoins ce que dit Madame Frödiger. Nous, donc mon industrie, on a installé des panneaux solaires car on a un toit très grand et donc plat. Et donc en l'occurrence, notre entreprise tourne 24 heures sur 24. Cependant, on a 60% de l'électricité qui est fournie par les panneaux solaires donc sur le toit. Et ce qui est quelque chose à prendre en compte dans vos arguments quand même.
Et avez-vous pris en... Pardon, excusez-moi de couper.
Non, ben, c'est qu'on
avez-vous pris en compte le recyclage des composants? Le problème que ça allait engendrer?
Oui, certainement. Je pense que nous, nous prenons de la bonne qualité. C'est pourquoi le recyclage des composants dont vous parlez, on ne le fait pas tous les deux jours non plus. Un composant, enfin du moins nos composants, sont des composants qui durent longtemps, qui sont durables, sont efficaces et qualitatifs, je l'ai déjà dit.
Excusez-moi de vous couper, monsieur Talak, mais on va être pris par le temps.
Excusez-moi.
Si vous pouviez finir assez rapidement.
Non, mais j'ai fini. Je peux rajouter que... Voilà, ça dépend de l'argent qu'on met dans ce qu'on achète et ça dépend de la qualité qu'on achète.
Okay. Merci à vous d'être venu débattre sur l'intelligence artificielle.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci.
La semaine prochaine, nous parlerons des technologies au service de la médecine. Je remercie l'équipe de production et le standard, sans oublier nos fidèles auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine.
Au revoir.